Bien, Alléluia. Merci Père pour ta parole et que tu puisses, au travers d'elle, nous enseigner ce matin et toucher notre cœur et nous conduire encore et encore à davantage de foi et de service. Servir ton nom pour proclamer la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Je voudrais vous parler, frères et sœurs, de vérité et de mensonge. Vérité et mensonge. Et je voudrais commencer par cette parole, et pour mettre en scène cette parole, cela se passe dans le prétoire de Pilate. Le prétoire est la résidence principale, le palais d'Hérode. Et voilà ce que Jésus va dire, et je vais replacer ensuite les contextes du propos de Jésus à l'occasion de cette convocation de Pilate. Qui, vous le savez, Jésus a été amené dans le prétoire par les Juifs qui contestaient le Seigneur et qui contestaient la proclamation de la bonne nouvelle. Et voilà que nous lisons dans ce texte de Jean, Jean chapitre 18, verset 36. Jésus répond à Pilate: Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui sera intéressant, c'est de noter les accusations qui ont été proférées contre Jésus sur la base de deux mensonges. C'est pour ça que ce message s'appelle Vérité et mensonge. Jésus donc proclame à Pilate, Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, Tu es donc roi. Jésus répondit, Tu le dis. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Ce qui veut dire en d'autres termes que quiconque est de la vérité écoute l'enseignement du Seigneur. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Amen. Nous pouvons lire également ce psaume 25. Et cela est à notre endroit. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre et apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Jésus est la vérité. Je le proclame haut et fort. Jésus est la vérité. La vérité n'est donc pas une idée, n'est pas une idéologie, n'est pas une morale. Jésus est la vérité. Je voudrais vous replacer les contextes à propos de Pilate, de Ponce Pilate. Parfois, et un certain nombre de religieux nous présentent Pilate comme un débonnaire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas ce que Flavius Joseph, historien juif, rapporte de Pilate. Ce n'est pas non plus ce que Tacite rapporte de Pilate. Pilate était un homme cruel. Alors vous allez me dire, c'est étonnant. D'où tiens-tu cela? Le mandat de Pilate commença au moment où le ministère de Jésus débuta. C'était la 15e année, c'est dans Luc chapitre 3 verset 1 que cela nous est rapporté. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Il est précisé qu'Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconidite. Lysianas régnait sur l'Abilène. Donc en fait, le territoire d'Israël était subdivisé en plusieurs gouvernements, plusieurs mandatures. Et Rome avait donc délégué à Pilate la préfecture de Judée, puisqu'il était préfet de Judée, gouverneur de Judée, appelé le procurateur. À la fois, il administrait pour le compte de Rome sur les affaires administratives et judiciaires. Et les Juifs ne pouvaient en aucun cas, de fait de ces contextes, rendre justice. Ils ne pouvaient condamner à mort. C'était le pouvoir romain qui avait décision de vie et de mort, et non pas les Juifs. Revenons sur Ponce Pilate, et voilà ce qui est dit dans les Écritures à propos de cet homme qui pourrait faire figure de quelqu'un qui ne tranche pas, qui est débonnaire, qui se lave les mains, et c'est vrai ce qui est le cas, qui est à la fois dans la zone blanche et la zone noire, mais en réalité, c'est un homme dont l'histoire rapporte qu'il fut cruel. Et j'en veux pour preuve ce texte de Luc, chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Massacrer des Galiléens. Fabius Joseph rapporte à propos de Pilate qu'il avait tué bon nombre de Juifs et avait fait exécuter des ordres contre les Juifs pour que ces derniers ne se manifestent pas contre l'autorité romaine. Et il n'en était pas à ses premières exactions, et il fit même tuer des innocents. C'est pour cela que Tibère l'a convoqué, Tibère l'empereur romain. Et on sait que la fin de vie de Ponce Pilate, selon les récits qui nous sont relatés et rapportés par Tacite, montre que Pilate finit très mal. Il a même été expulsé, éloigné, je dirais, d'Israël, du territoire d'Israël, qui était occupé par les Romains. Il fut emmené dans les Gaules et il termina très mal puisqu'il se suicida selon les écrits que l'on détient. Il y a d'autres écrits qui tendraient à montrer qu'il fut un saint. Je ne le crois pas vraiment. Ce n'est pas ce que rapporte, je dirais, l'histoire, Tacite et Flavius Joseph. Revenons, je dirais, à cette convocation. Il y a eu des fausses accusations contre Jésus. Il est emmené au prétoire sur des prétextes fallacieux. Le premier prétexte, c'est que les Juifs rapportent à Pilate « On vous amène celui qui demande au peuple juif de ne pas payer le tribut à César et qui se proclame en outre roi. » Les Écritures nous rapportent et Jésus le dit même à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et en aucun cas, Jésus ne s'est proclamé devant le Sanhédrin qu'il était roi. Jésus rapporte devant le questionnement auquel il ne voulait pas répondre, il rapporte le texte du psaume 110, 1, que nous pouvons lire, si vous voulez bien. Le psaume 110, 1, et si on peut reprendre ce psaume, Jésus dit qu'il est assis à la droite du Père et c'est là que les Juifs disent « Mais tu es donc le Fils de Dieu ». Je reprends les contextes que nous relate l'Évangile. Deux accusations mensongères. Jésus est donc innocent des incriminations qui lui ont été faites. Bien souvent, nous pouvons être tentés de déformer la réalité, de rapporter des propos qui ne sont pas exacts, qui sont exagérés. Le Seigneur nous dit d'être dans la vérité. Amen. Le Seigneur nous invite à être dans la vérité, de ne pas exagérer la vérité. C'est pour cela que je vous ai rapporté les textes fidèlement, pour ne pas surexagérer, mais dire la vérité. Le Seigneur nous rapporte cette nécessité d'être vrai. Mais la vérité n'est pas adhérer à une idéologie, ce n'est pas l'idéologie de la morale, ce n'est pas l'idéologie d'une pensée. La vérité, c'est Jésus que nous aimons, que nous embrassons. C'est la personne de Christ en nous. Je voudrais vous rapporter ce fait. Et alors, quand je vois ce que j'ai vécu au cours de la semaine, je me dis, c'est aux antipodes de la démarche que j'ai vécue avec cette jeune fille qui est devant sa maman, plongée dans le coma et qui prie pour sa maman. Et on connaît la suite de l'histoire, cette restauration et cette guérison totale qui est intervenue dans le cœur de cette maman. Au cours de cette semaine, je recevais un ami, je ne donnerai pas son prénom, c'est un ami que je connais depuis des années, que j'aime beaucoup. Un ami chrétien, mais qui n'est pas dans la vérité, qui est dans le mensonge, qui vit dans le mensonge. Cet ami n'est pas rémois, il n'habite pas Reims. Vous ne l'avez jamais rencontré, ni jamais vu. Et cet ami me confesse que jamais il n'a été heureux depuis 20 ans, et que pour la première fois, il connaît le bonheur. Il vit avec une personne qui n'est pas son épouse. Il trahit son épouse et celle qu'il aime trahit son époux et son mari. Il est chrétien. Il n'est pas dans la vérité. Et je ne pouvais donc pas faire de détour. Il me fallait parler en vérité avec cet ami. Et pour moi, c'était un impératif que de lui parler en vérité. Et je lui donne ce texte de 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Être dans la vérité, c'est garder les commandements de Jésus. Être dans la vérité, c'est garder les commandements de Jésus. Amen. Amen. Celui qui dit « Je le connais », et peut-être beaucoup d'entre nous disent « Je connais le Seigneur ». Tu le connais si bien que tu n'as pas gardé ses commandements. Tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. Je cite, hein. J'ai cité le texte de Jean, ça peut vous paraître sévère. 1 Jean chapitre 2, verset 3 et verset 4. Le Seigneur nous invite à garder ses commandements. Nous serons dans la vérité si nous gardons les commandements de Jésus. Amen. Gardez les commandements pour vivre en vérité. Pourtant, l'épître de Jean, c'est 1 Jean chapitre 1, verset 8, nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc nous sommes aussi menteurs lorsque nous disons que nous n'avons pas de péché. Et ici, je m'adresse à une assemblée de pécheurs. Amen. Nous sommes pécheurs. Mais le Seigneur ne veut pas que tu en sois là et que tu en restes là. Le Seigneur t'invite à l'aimer, à te laisser habiter par sa présence, par sa personne, afin que le Saint-Esprit vienne changer, transformer, bouleverser ta vie. Le Seigneur fait grâce au pécheur. Il aime le pécheur. Amen. Et il ne veut pas que tu restes en l'état, que tu viennes et que tu le suives. Jésus t'appelle. Suis-moi. Il te presse à le suivre, à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Aime Jésus. La vérité, c'est lui. C'est lui. Il ne te demande pas d'adhérer à une morale. Il te demande de suivre sa personne et d'aimer sa personne et de te laisser envahir par la présence de son esprit en toi. Alors puissions-nous ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour nous ouvrir à la vérité et ne pas nous égarer dans la voie du mensonge. Le mensonge peut nous écarteler, nous éloigner de la source, de la vie en Christ. Mais c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est bien la vérité qui nous affranchira. Aline nous a rappelé cette semaine la parole de Jacques dans Jacques chapitre 5, verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Amen. Nous avons donc légitimité, nous tous, d'avertir le pécheur, de lui dire « Tu t'es engagé dans une mauvaise voie. » Et le Seigneur t'invite, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la remontrance morale, en aucun cas, parce que déjà, regarde-toi, examine-toi, et tu verras que dans l'état de ton cœur, peut-être n'es-tu même pas digne d'exhorter, d'aller encourager ton frère ou ta sœur. Mais le Seigneur t'invite à reprendre celui qui s'éloigne de la vérité. Et le Seigneur m'a invité auprès de cet ami à lui dire « Mais tu n'es juste pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, lui ai-je dit. » C'est un ami, c'est souvent très difficile, Christian, tu me l'accorderas, de parler à un ami et de l'exhorter. lui qui est théologien, en plus c'est un théologien, il connaît la parole. Il connaît la parole, il exhorte les chrétiens. Vous vous rendez compte? L'écart. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tu le reprends, tu le corriges et tu le fais de ma part. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Ce qui n'a pas amené à la repentance, mais il s'est mis à pleurer. Parce que la parole était là. Ensuite, je dis, Seigneur, moi je ne vais pas faire pression. Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions pression. C'est le Saint-Esprit qui œuvre ensuite et amène cette transformation dans le cœur. Amen. Alors moi, je dis, je l'ai laissé dans le silence parce qu'il a voulu me relancer. Je dis non, je ne relance pas à nouveau. Je reste dans le silence et je laisse maintenant le Saint-Esprit œuvrer dans son cœur. Amen. Du mensonge à la vérité, vous vous souvenez donc de ce propos de Ponce Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Donc propos qui est rapporté par Jean au chapitre 18, verset 35. C'est quand même une curieuse remarque de Ponce Pilate, vous ne trouvez pas? Pilate n'est ni philosophe, il n'est pas plus théologien, il n'est pas docteur de la loi. Mais c'est un administrateur, procurateur, préfet, délégué par l'Empire romain, pour appliquer la loi de Rome dans le prétoire, l'ancien palais d'Hérode. Il a la charge, comme je vous l'ai dit, de ses affaires juridiques et de la Judée. Ponce Pilate interpelle Jésus. Qu'est-ce que la vérité? On pressent ici chez Ponce Pilate la tentation de relativiser la vérité, de minimiser la vérité, de l'édulcorer. Or, la vérité est incarnée en Jésus et sans doute que Ponce Pilate n'ose pas devant le tribunal humain se confronter au tribunal divin. Pilate, c'est un jeu de mots. Un vrai pirate. C'est pas le corsaire du roi, Pilate. C'est un lapsus, à mon avis, très évocateur sur la personne de Pilate. Pilate ne se risque pas de se confronter à la vérité d'en haut. Celle qui est d'essence divine, Jésus ne répond pas à sa question. Vous avez noté? Il ne répond pas à la question de Pilate. Jésus ne pouvait opposer que le silence à l'interpellation de ce préfet de Judée. Jésus n'a pas justifié la vérité, n'a pas expliqué la vérité. Oui, vous êtes d'accord? Jésus n'a pas justifié la vérité, il n'a pas expliqué la vérité. La vérité, elle était incarnée en lui. C'est lui la vérité. La vérité n'est donc pas une idée à défendre, mes frères et sœurs. Ça, je l'ai compris aussi. Jésus est la vérité. Jésus ne proclame-t-il pas « Je suis ». Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis. Ponce Pilate, magistrat, dans sa cour de justice, est confronté à la justice divine, celle de Christ. Et cette justice, elle dépasse la simple vérité que définirait l'homme. Comment vous définiriez-vous la vérité? Sans doute que vous seriez tenté de dire c'est tout ce qui s'écarte du réel. D'accord? Tout ce qui fait écart avec le réel n'est pas la vérité. On est tenté de décrire la vérité ainsi. C'est vrai. Mais Jésus va montrer à chacun d'entre nous, et va vous montrer ce matin, que la vérité, mes amis, elle va bien au-delà. La vérité a une dimension spirituelle. Et elle touche à l'intimité de notre âme. Elle touche à notre âme qui est reliée à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens à Ponce Pilate. En se questionnant sur la vérité, on ressent chez Ponce Pilate la dimension dubitative de sa question, la perplexité. Le ton de Pilate doit être sans doute ironique. Qu'est-ce que la vérité? En fait, il n'attend aucune réponse, hein. Chez Pilate, c'est certain. La question nous révèle le comportement de Pilate qui ne veut pas se positionner. Il s'en lave les mains, il ne tranche pas. L'homme neutre, ici, dans les circonstances qu'il arrange, et on voit d'ailleurs dans la vie de Pilate, qu'au fond c'est un homme qui est à géométrie variable, hein, qui est une vraie girouette, qui, selon les intérêts du moment, adapte, je dirais, sa justice. Il adapte sa justice. Il ne veut pas d'histoire avec le peuple juif parce que Il sait qu'une partie, une grande partie de la population le soutient et puis veut pas d'histoire. Pilate est un faux fuyant. Il n'ose pas se confronter. Pilate ne veut pas connaître la vérité. D'où cette question qui marque en réalité son souhait de se dérober à la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? On la relativise. Parfois, nous relativisons le bien, le mal. Hein, ça vous arrive. Ça nous arrive aussi de relativiser le bien et le mal. Mais Jésus est la vérité. Et ce qui veut dire qu'en d'autres termes, la vérité de Jésus, elle est au-delà de toutes nos réalités. Cette vérité, Jésus va nous l'expliquer qu'il ne juge pas à l'apparence, qu'il ne regarde pas à l'apparence. Le Seigneur est celui qui sonde. Dieu sonda le cœur d'Adam et de Ève qui se dissimule derrière un arbre pour ne pas faire connaître la vérité. Mais Dieu, au-delà de l'arbre, voit Adam et Ève. Dieu observa le cœur de Caïn, qui eut l'affront, après avoir assassiné Abel, de dire à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Au fond, c'est de ta faute, hein. Si Abel a été tué, c'est parce que tu devais sans doute mieux le garder. C'est de ta faute. C'est un peu ça, hein ? Dieu examina Abraham, qui trompa la vigilance de Pharaon en professant une demi-vérité. C'est une demi-vérité, hein ? Abraham dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. C'est une demi-vérité, parce qu'en réalité, oui, c'était sa sœur. Mais une demi-vérité, une demi-sœur. Abraham s'est arrangé avec la vérité. Parfois, nous sommes dans des demi-vérités, mes amis. C'est vrai ou pas ? Hein ? Des demi-vérités. Dieu interpella David, adultère et meurtrier. Mais il aima David. Et il voulut la repentance de David. Dieu interrogea Jésus. Interrogea le cœur de Judas, qui pour une poignée d'argent trahit Jésus. Il apostropha le cœur des pharisiens, parce que le cœur des pharisiens était double, à mi-chemin entre la vérité et le mensonge. Il convoque la conscience, notre conscience, la conscience de tous les pécheurs que nous sommes ici, c'est-à-dire nous tous. Dieu convoque notre conscience. N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, que nulle créature, nul d'entre vous n'est ici caché devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aucun d'entre nous n'est caché. Et le Seigneur a posé sa main sur chacun d'entre nous. Il connaît l'état de notre cœur. Et le Seigneur n'est pas en train de culpabiliser nos vies. Il est en train de nous dire, mais je connais ta vie. Pourquoi te caches-tu ? Pourquoi te dissimules-tu derrière ton arbre ? Je te connais. Je sais où tu en es. Je sais que tu partages parfois ta vie entre mensonge et vérité. Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que chacun d'entre vous est ici interpellé ? Est-ce que c'est le cas pour vous, entre mensonge et vérité ? On va venir me le reprocher tout à l'heure, on va me dire, ouais, non, je ne suis pas d'accord avec ton message. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le Seigneur veut montrer que ta vie, Dieu veut qu'elle soit dans la lumière. Ne te dérobe pas, ne te dissimule pas derrière ton arbre. Amen. Le Seigneur te voit. Hey, je t'ai vu ma sœur, je t'ai vu mon frère. Je sais qui tu es, je sais dans quel état tu es. Avance dans la vérité. La vérité, c'est Christ, c'est Jésus. Embrasse cette vérité. Et pendant que je parle, je pense que l'un d'entre nous ici, et je le dis prophétiquement, et c'est le Saint-Esprit qui m'envahit, et qui me dit, voilà, depuis des années, tu es dans le mensonge. Tu vis dans le mensonge. Tu n'es pas dans la vérité. Et le Seigneur t'invite, là, à ne pas te dérober avec la vérité. De venir à lui. Ne mens plus. Que le Seigneur interpelle cette personne et lui montre que c'est le chemin maintenant de la vérité qui l'attend. De ne pas se dérober à la vérité. Pour expliquer cette dimension de la vérité, j'aimerais vous évoquer ce passage de l'évangile de Marc qui nous ouvre un aspect de cette dimension spirituelle qui sonde les cœurs et les reins. La vérité, c'est la lumière que nous laissons apparaître en nous, sans la moindre ombre. Car il n'est rien de caché, comme cela nous est dit et rapporté dans l'évangile, rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doit être mis à jour. C'est dans Marc, chapitre 4, verset 22, texte qui est en résonance avec le texte de Hébreux que je vous ai cité. Rien de cachets qui ne doivent être découverts, rien de secrets qui ne doivent être mis au jour. Amen. Rien de cachets qui ne doivent être découverts, rien de secrets qui ne doivent être mis au jour. J'aimerais vous parler des intentions secrètes. Jésus n'est pas aveugle sur la réalité de nos intentions. Il connaît le cœur des hommes, de tous les hommes. Et nous en avons l'illustration dans le texte de l'évangile de Marc, chapitre 12, du verset 41 au verset 44. Jésus est assis dans le temple. Il est devant le tronc. Et il regarde, il observe, c'est ce que rapporte l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 41 au verset 44. Jésus observe comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. Voilà ce que nous rapporte l'Écriture. Jésus nous regarde, il nous observe. Jésus vit que beaucoup de riches mettaient beaucoup, mais en réalité, cela donnait de leur superflu. Les riches donnaient beaucoup, mais en réalité, ils donnaient de leur superflu. Puis il vit une veuve pauvre qui mit 2 pièces. Et l'évangéliste Marc précise, c'est une toute petite somme. Or, Jésus, en réalité, vit qu'elle avait mis beaucoup, qu'elle a donné plus que son nécessaire. Et en réalité, c'est bien plus que le nécessaire, c'est le nécessaire à son existence. Ça veut dire qu'elle n'avait plus rien pour vivre du fait des pièces qu'elle donna dans le tronc. Vous vous rendez compte? Jésus a vu que cette femme a donné énormément. Alors que l'évangéliste précisait que les riches donnaient beaucoup. Mais c'est rien par rapport à cette veuve. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, Jésus ne regarde pas à la surface, à l'apparence, à ce que l'on veut bien donner de soi-même, de son image. Mais le Seigneur sonde la réalité des reins et du cœur. Il sonde nos intentions. Dieu se préoccupe de nos intentions. Amen. Et je vous ramène à notre sujet, la vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Dans d'autres versions, il est écrit, amen, je vous le dis. Donc, amen, en hébreu, signifie vérité. Quand c'est placé en amont d'une phrase, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Amen veut dire vérité. Quand c'est en fin de phrase, ça signifie ainsi soit-il. Ainsi soit-il. En début de phrase, comme c'est une insistance, Jésus dit en vérité. Ce qui peut être traduit, c'est vrai. La vérité est un roc solide. D'ailleurs, le mot hébreu amen de aman, ça veut dire être solide. C'est pas une vérité floue. C'est pas une vérité liquide. On n'est pas dans la zone grise. Il faut prêter donc oreille particulièrement au propos de Jésus quand il dit « En vérité, je vous le dis ». Jésus donc met l'accent sur l'importance de la vérité. Il dit à maintes reprises « Je vous dis la vérité ». C'est Jésus qui dit « Je vous dis la vérité ». Embrasser l'amour de la vérité, c'est se livrer à Christ. Ce n'est plus accepter de part d'ombre dans sa vie. N'attristez pas le Saint-Esprit en partageant votre vie avec le mensonge ou la demi-vérité, la semi-vérité. C'est Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Alors, je vais vous parler de moi. J'ai été réprimandé quand j'étais enfant par mes parents pour mes demi-vérités. Et vous savez quel était le surnom qui m'a été donné ? C'est une expression qui vient du nord de la France. Mon père m'appelait Carabistouille. J'avais la posture du Carabistouille. En fait, je m'arrangeais toujours avec la vérité. Toujours avec la réalité. Je m'arrangeais. Une réalité à laquelle je ne désirais jamais me confronter. J'avais tendance à me louvoyer, ou à louvoyer, à maquiller. En plus, j'étais doté d'un bon bec, comme dirait l'autre. Et donc... Mon père, je savais l'emmener, le promener, mais lui, il me dit « Carabistouille, je te connais !» Je maquillais la vérité en langage, moins imagé et plus cru, et ça s'appelle pourtant le mensonge, d'accord ? C'était gentil de la part de mon père, mais très gentil de sa part, il était plein de grâce, mais c'était le mensonge. La Bible, mes frères et sœurs, est traversée par d'innombrables exemple de non-vérité, de mensonge, de personnes qui trafiquent, persifent, trompent, dupent la vérité. Or, la vérité, lorsque nous la connaissons et nous la partageons, mes frères et sœurs, la vérité nous rend libres. Amen. J'ai appris cela au cours de mon mariage, de ne jamais trafiquer, louvoyer, diminuer, édulcorer la vérité. Il fallait que je parle en vérité. Amen. Et la vérité, franchement, a rendu plein de services. Elle m'a rendu libre. Amen. Et Sabine aussi. Parce que si j'étais dans le mensonge, je l'aurais maintenu dans la non-liberté. Et donc, en m'affranchissant du mensonge, j'ai rendu libre mon épouse. Amen. Encore plus libre pour m'aimer. D'accord ? Pour ne pas trahir. Donc, la vérité, c'est aussi dire, lorsque je sais quand un intime, un ami, un frère s'abuse, se fourvoie dans le mensonge, qu'il m'appartient de le lui partager. J'aimerais, pour bien comprendre la vérité incarnée en Christ, que nous revenions ensemble à ces trois mensonges du serpent qui trompa la vigilance de l'homme. Genèse chapitre 3, versets 4 à 6, les mensonges du diable, les mensonges de Satan. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le père du mensonge, il s'agit de Satan, le père du mensonge séduit. L'arbre est bon à manger, régalez-vous, c'est super, c'est un festin, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est du doping, hein. Le dopage est une affaire de mensonge. On est bien d'accord. Le père du mensonge se drape toujours de semi-vérité. Le mensonge est tentant, il rend beaucoup plus agréable notre condition de vie. Mais la dimension agréable est toujours éphémère, mes amis, hein. On est d'accord. Le salaire du péché, c'est en réalité la mort. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et nous a envoyé Jésus pour rétablir la vérité. Jésus est venu rétablir la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus, s'adressant aux pharisiens qui maquillaient la vérité, leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. » Le diable ne se tient pas dans la vérité, mes amis. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a pas de vérité dans le père du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, c'est Jésus qui parle, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Notez que Dieu, au travers de Jésus, inverse les quatre mensonges de Satan. Le diable vous dit que l'arbre est agréable à manger. D'accord ? Le diable vous dit « l'arbre est agréable à manger ». Mais Jésus vous dit « je suis le pain de vie ». Le diable vous dit qu'il vous ouvrira les yeux. Jésus répond qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Le diable vous dit « vous serez semblable à Dieu ». Jésus rétorque qu'il vous aime comme ses enfants. Le diable vous dit « vous ne mourrez pas ». Or le salaire du péché, c'est la mort. Mais le sang de Jésus répandu pour vous, c'est cela votre vie et la vie éternelle. Gardez ses commandements. Pratiquez ses commandements afin de garder Jésus, la vérité. Fuyez les demi-mensonges, les demi-vérités, car vous ne marchez pas alors dans la lumière à laquelle vous êtes appelés. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Père, je te prie pour chacun d'entre nous et pour moi-même, Père, pour qu'il n'y ait pas un brin de mensonge, un petit brin, et que je m'efforce à marcher dans la vérité et que nous tous ici, nous nous efforcions, Père, dans notre conscience de regarder notre part d'ombre et de dire, Seigneur, ça c'est une part d'ombre que je te remets. Mais je connais ta compassion envers nous tous, Seigneur, parce que tu aimes chacun d'entre nous. Et si ce message, tu nous l'as délivré, c'est tout simplement parce que tu veux que notre Église grandisse dans ta lumière. Et Seigneur, tu nous invites aussi à être encore fêlé pour toi, à être fou pour toi, pour laisser encore davantage de lumière dans nos cœurs, afin que ta lumière, Seigneur, touche d'autres cœurs. Père, tu nous invites aussi à partager la vérité auprès de nos frères en nous examinant déjà en premier lieu, pour ne pas donner l'impression de juger. Seigneur, tu nous invites tout simplement à être exemplaires dans nos cœurs, afin de te suivre, parce que tu es la vérité, tu es le chemin et tu es la vie. Seigneur, je te prie tout simplement ce matin, même si le message a pu paraître long, Père, que tu marques nos cœurs et nos esprits, parce que tu as fait un miracle ce matin. C'est tout simplement de nous manifester que tu es présent au milieu de nous et que tu veux toucher nos cœurs afin que nous croissions en toi. Amen.